Alors bonsoir, bienvenue à chacune et à chacun. On est ravis de se retrouver un lundi soir de plus pour les cours Biblos. Bon après-midi, Gilles, plutôt.
Merci, bonsoir à toi.
Donc on retrouve notre deuxième orateur pour cette session de cours. Donc Gilles Despins, plusieurs le connaissent. On va attaquer le chapitre 11 de Romains. Je vais prier pour Gilles et puis après je lui laisserai la place. Oui, Dieu Père, on veut te remercier pour cette nouvelle soirée que tu nous permets de passer ensemble par le moyen de la technique. On est situés les uns des autres à des milliers de kilomètres et on veut te remercier pour ça. On veut te remercier parce qu'on peut écouter ce que tu as à nous dire à travers ce que Gilles va nous apporter. On veut te demander de le remettre. On te le remet tout particulièrement et puis on veut te demander de le guider par le secours de ton esprit. On veut aussi te demander d'avoir les cœurs ouverts à entendre ce que tu as à nous dire à chacun. Et c'est avec confiance qu'on fait monter cette prière devant toi par le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, Gilles, je te laisse.
Merci beaucoup, Mathias. Alors, bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous. Quoique, je dois quand même avouer que suivre Joël Brun, c'est pas évident, hein? Il est vraiment dans une autre classe, ce frère-là, dans une classe à part. Mais quel exposé il nous a donné des chapitres 9 et 10. Ah, c'était vraiment du bonbon. J'ai vraiment aimé tout ce qu'il nous a présenté. Donc, c'est quand même tout un défi de suivre un tel orateur. Bon, maintenant, j'ai laissé sur le site de Biblos des documents, en fait, deux documents qui sont ni plus ni moins que le canevas de notes et aussi le PowerPoint qui reprend essentiellement la même chose que le canevas. Donc, je crois pas qu'il y ait une grande différence entre les deux. Cependant, je ne vais pas utiliser de PowerPoint ce soir parce que je n'ai pas réussi à bien intégrer la technologie du PowerPoint à la façon dont je veux explorer et regarder le chapitre 11 avec vous ce soir. Donc, j'espère que ce ne sera pas un problème pour vous. Vous aurez l'occasion, si vous voulez, de reprendre plus tard le PowerPoint qui aura les grandes lignes simplement. Et moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de regarder le chapitre 11 verset par verset en détail et pour mieux comprendre en fait l'argumentation de l'apôtre Paul. On sait que le chapitre 10 s'était terminé en soulignant le fait que Yahweh, le Dieu d'Israël, avait tendu ses mains vers son peuple, l'invitant à jouir de son salut. Mais Israël, dans sa révolte, son endurcissement de cœur, sa désobéissance, a rejeté le Seigneur. Et donc, le chapitre 11 va s'ouvrir avec cette grande question qui va diriger toute notre étude du chapitre 11. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Et on parle bien du peuple d'Israël. C'est pas l'Église dont il parle, bien entendu, quand Paul pose cette question dans Romains 11, verset 1. Et c'est à cette question-là que nous allons chercher à répondre avec le texte et en essayant de comprendre les différents arguments utilisés par l'apôtre Paul. Dans le canevas, vous allez retrouver d'abord un plan très simplifié de toute l'épître. Donc, c'est un rappel de ce qu'on avait déjà fait ensemble l'année passée. Donc, vous allez trouver en un seul mot des mots-clés chaque division de l'épître. Ensuite, un plan un petit peu plus détaillé. En fait, ça reprend exactement la même structure, mais avec des phrases courtes. Et dans le canevas, vous allez trouver à la page 2 par la suite une division du chapitre 11 en tenant compte des arguments de Paul par rapport au fait que Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël en tant que peuple élu, peuple choisi, son peuple ethnique, le peuple d'Israël. Donc, vous allez trouver cela. Et au milieu de cette deuxième page, il y a la question qui nous préoccupe et qui préoccupait l'apôtre Paul, bien entendu, au début du chapitre 11, Dieu a-t-il rejeté Israël? Il y a trois réponses populaires qui sont proposées à cette question-là. D'abord, certains disent oui, Dieu a rejeté Israël parce qu'ils ont rejeté le Messie et donc ils ont été remplacés par l'Église. Mais cette réponse est inacceptable. Bien entendu, juste en regardant le texte, on se rend très bien compte, de façon très claire, que Paul répond de manière négative à cela. Puis vous allez voir de deux façons en particulier qu'il fait cette réponse négative. Ensuite, d'autres vont dire, non, le peuple de Dieu n'a pas été rejeté, Israël n'a pas été rejeté, mais il a changé de forme. Donc là, c'est un petit peu plus subtil. On dit qu'il est passé d'Israël à l'Église. Et donc, dans cette forme de réponse, l'Église serait comme la continuité d'Israël. Et pour certains même, alors on dit l'Église et Israël, c'est exactement la même chose. Mais à nouveau, l'Écriture fait une distinction tellement claire entre Israël et l'Église qu'on ne peut pas répondre de cette façon-là. La troisième réponse est la bonne, est la seule qui a un appui exégétique solide et en plus qui repose sur une interprétation cohérente de toute la révélation progressive de Dieu, c'est-à-dire non, ils n'ont pas été rejetés par Dieu, mais parce qu'ils ont rejeté le Messie, c'est vrai, ils ont été mis de côté temporairement jusqu'à leur rétablissement. Donc, en attendant, ce que Dieu fait, et que Christ fait, c'est qu'il bâtit son Église qui est composée autant de juifs que de non-juifs. Alors voilà la seule bonne réponse, autant d'un point de vue de la cohérence théologique, c'est-à-dire de tout ce que l'Écriture enseigne tout partout, et aussi bien sûr d'une exégèse solide du texte qui est sous nos yeux d'une façon toute particulière, le chapitre 11. Alors l'apôtre Paul, qui a lui-même introduit cette question, va y répondre au moyen de six arguments. Il va d'abord parler du salut que lui-même ou dont lui-même bénéficie en tant que juif. Alors, lui qui est un juif est sauvé, donc c'est la preuve que Dieu n'a pas rejeté totalement ou définitivement Israël ou le peuple juif. Ensuite, le deuxième argument de Paul sera de parler du jugement disciplinaire et temporaire de Dieu sur son peuple. Oui, Israël est discipliné, mais il n'est pas rejeté définitivement. Ensuite, dans la troisième réponse que Paul va donner, il va parler du plan souverain de Dieu dans la rédemption. Et c'est merveilleux parce que l'homme ne peut pas déjouer l'Éternel. Dieu n'est jamais surpris par les actions des hommes. Il n'est pas surpris par les choses. Il n'est pas obligé de trouver un plan B pour essayer de corriger la situation. Tout va entrer dans le cadre de son plan souverain. Il est en parfait contrôle. Et c'est tellement rassurant pour notre propre salut, notre propre élection qui est entre les mains de notre Dieu. Le troisième argument de Paul va reposer sur l'alliance la plus importante de toutes les Écritures, c'est-à-dire l'alliance abrahamique, l'alliance avec Abraham. Ah, c'est elle la plus importante parce que sur elle reposent toutes les autres alliances qui sont cumulatives et englobent tout le plan de la rédemption de Dieu, incluant l'Église. Et donc, voilà pourquoi l'alliance abrahamique est tellement, mais tellement importante. Et puis, on n'est pas des Juifs. On était si loin de ça. Rappelez-vous les Éphésiens, comment Paul, dans cette épître, dit, vous étiez étrangers, vous n'étiez pas des concitoyens des saints, vous étiez loin. Il y a un adverbe hein, qui définit ce que nous étions en tant que non-Juifs par rapport à la rédemption, par rapport aux promesses de Dieu, par rapport aux alliances, nous étions loin, mais par le sang de Christ, hein, rapprochés, on devient bénéficiaire des bénédictions de Dieu dans l'alliance abrahamique et même au-delà, dans la nouvelle alliance aussi, d'une façon toute particulière. Donc, pour Paul, l'alliance abrahamique, qui est une alliance inconditionnelle et irrévocable avec Israël, eh bien, ce sera un argument solide pour dire, c'est clair que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il ne peut pas, de par ses propres alliances, inconditionnelles, que lui-même a faites avec Israël. Le cinquième et avant-dernier argument de Paul pour montrer qu'Israël n'a pas été rejeté, c'est celui du mystère. Un mystère tout à fait particulier, le mystère de l'endurcissement partiel d'Israël. Oui, Israël a été endurci, mais c'est partiel, c'est-à-dire que ce n'est pas définitif, permanent. Un jour, cet endurcissement, pardon, sera enlevé. Et donc, les yeux seront ouverts à nouveau, contrairement à ce texte, hein, qui nous parle souvent des yeux obscurcis ou fermés. Eh bien, cette fois, les yeux seront ouverts et Israël a un avenir glorieux. Et d'ailleurs, c'est le dernier argument, l'argument de la gloire de Dieu, qui est insondable, qu'on ne peut pas retracer tellement c'est immense. Dieu a un plan inimaginable, dans le sens où on n'aurait pas pu concevoir un tel plan de rédemption. Il inclut même ce plan-là, le péché dans le monde. Il inclut l'endurcissement d'Israël, le rejet du Messie, tout cela parce que Dieu, dans son plan souverain et glorieux, était en parfait contrôle de toutes choses. Donc, la gloire même de Dieu sera l'argument final du chapitre 11. Voilà ce que je vous propose. Et puis, c'est un très long chapitre. Vous voyez là qu'il y a quand même énormément de versets. On parle de 36 versets. Ce que je vous propose, c'est de lire uniquement le bloc qui est lié à chacun des 6 arguments. Donc, pour débuter, nous allons prendre les 6 premiers versets et nous allons les lire, essayer de comprendre l'argument de Paul. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est prendre vos Bibles, comme moi-même je l'ai entre mes mains, et je vais lire dans la version Darby en utilisant la nouvelle édition de Rolle là, qui est parue il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et puis, on va lire les 6 premiers versets qui concernent le tout premier argument de Paul pour montrer et prouver que Dieu n'a pas rejeté Israël. Donc, je vais lire d'abord et puis ensuite progresser en revenant sur chaque verset pour essayer de vraiment de comprendre d'un point de vue exégétique comment Paul développe son argument. Lisons d'abord les versets 1 à 6. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne, car moi aussi je suis Israélite de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie, comment il fait requête à Dieu contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi, je suis demeuré seul, ils cherchent ma vie. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ainsi donc, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisqu'autrement, la grâce n'est plus la grâce. Voilà l'argument de Paul. On le résume ainsi, le salut par grâce dont Paul lui-même, en tant que juif, bénéficie. L'apôtre Paul, on l'a souligné à la fin du chapitre 10, soulignait à quel point Israël avait rejeté Dieu. Alors, si Israël a rejeté Dieu, est-ce que Dieu, lui, a rejeté son peuple? À cette question, nous avons une réponse immédiate et très claire. Et par le point d'exclamation qu'on trouve même dans l'édition de la Bible Darby, on se rend compte que c'est donné avec force, hein? Qu'ainsi n'advienne! Mais ce qui ne paraît pas à nos yeux, nous, les lecteurs francophones, c'est que dans la forme même de la question dans le texte original grec, il y a un tout petit adverbe qui est utilisé au début de la phrase qui indique déjà quelle sera la réponse. Et donc, la réponse est non. On sait déjà quelle est la réponse avant même de lire la question dans le texte original. Bon, parfois c'est très utile parce qu'on n'a pas nécessairement d'indicateur tout de suite après, comme l'expression qu'ainsi n'advienne. Mais là, on a déjà la réponse, c'est non, et l'apôtre Paul va renforcer cela avec cette expression qui signifie que cela n'arrive jamais. C'est comme la forme la plus intense en grec pour dire non. C'est vraiment un genre non, pas du tout, oublie ça n'arrivera pas. C'est vraiment très fort comme expression et l'apôtre Paul va l'utiliser en particulier quand il pose des questions rhétoriques. La réponse est pratiquement claire dans la question, mais c'est une manière de répondre à ce genre de questions-là, et c'est une manière très intense, instantanée, d'exprimer un profond désaccord. Alors, s'il y a quelqu'un qui est en profond désaccord avec l'idée qu'Israël puisse avoir été rejeté, ça c'est l'apôtre Paul, mais au-delà de ce qu'on peut souligner humainement parlant dans l'apôtre, n'oublions pas que c'est la parole inspirée de Dieu. Et la parole inspirée de Dieu elle-même nous dit, mais pas du tout. Ça n'arrivera jamais. Oublie ça, Dieu ne rejette pas Israël. En tant que peuple ethnique, et n'a pas été remplacé, ni n'a pas été continué par quelque autre groupe, même si ça s'appelle l'Église, mais Dieu a plutôt un avenir glorieux pour ce peuple-là, comme on va le voir un petit peu plus tard. Alors, pour l'apôtre Paul, il dit clairement que Dieu n'a pas rejeté son peuple, il ne s'est pas dissocié totalement de son peuple Israël. Et l'argument de Paul, c'est que, regardez-moi, je suis un juif, je suis un israélite, je suis de la semence ou la descendance d'Abraham, même de la tribu de Benjamin. Donc, je suis un juif pur sang, si on peut dire, et je fais partie pourtant des sauvés, des élus. Bien entendu, dans un contexte différent, dans celui de l'Église. Mais l'apôtre Paul, pour le moment, c'est simplement une démonstration que son propre salut prouve que Dieu n'a pas complètement tourné le dos au peuple juif. Si un juif se repent de ses péchés et reçoit Jésus comme son sauveur personnel, eh bien, tout comme nous, il devient un membre du corps vivant de l'Église et il est sauvé. Maintenant, on voit dans l'argument de Paul qu'il ajoute au verset 2 clairement que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Alors là, vous voyez là que j'arrive pas à comprendre comment des gens puissent encore penser que Dieu aurait pu d'une quelconque façon rejeter Israël, quand c'est non, déjà dans la question en grec, qu'ainsi n'advienne ou que cela n'arrive jamais, pas du tout, loin de là, comme dit la version seconde. Puis ici, tu as une déclaration très claire au verset 2. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Pourquoi? Parce qu'il l'a préconnu, il l'a connu d'avance. Et ce verbe-là contient l'idée de choisir d'avance quelqu'un ou quelque chose pour accomplir des buts. Et ce sont les buts de Dieu dans la rédemption dont on parle. Donc, connaître d'avance ou préconnaître n'est pas seulement lié au fait que Dieu, dans son omniscience, sait toutes choses à l'avance. C'est plus fort que ça. Le terme utilisé dans l'original parle d'un choix souverain pour accomplir un but particulier. Ce n'est pas seulement que de la connaissance. L'apôtre Paul se base beaucoup sur les Écritures pour ses différents arguments, et il va le faire ici dans ce passage-là en rappelant l'histoire d'Élie qu'on trouve dans 1 Roi chapitre 19. Au verset 10, l'apôtre Paul, il dit, ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie? Et là, remarquez bien les crochets dans la Bible Darby, parce que le texte original dit simplement dans Élie. Et ce qui est en crochet a été rajouté par Darby lui-même pour faciliter la compréhension du texte. Mais c'est une façon juive de parler. Si on dit dans Élie, on veut dire dans le passage qui parle d'Élie ou alors dans l'histoire qui parle d'Élie. Et là, Darby a choisi histoire. D'autres vont plutôt traduire par dans le passage qui parle d'Élie. Mais dans ce fameux passage de Roi 19, on voit Élie qui va intercéder devant Dieu contre Israël. Darby a traduit par faire requête à Dieu contre Israël. Remarquez le contre. C'est spécial de prier, je vais le dire, contre quelqu'un en fait. Il demande quelque chose contre Israël. Pourquoi? Parce que Israël méritait clairement un jugement. Et le prophète avait discerné cela. Alors il intercède pour que Dieu fasse preuve de justice par rapport à l'injustice d'Israël. Et l'injustice d'Israël était l'idolâtrie. donc d'avoir rejeté Yahweh. À la période d'Élie d'ailleurs, on voit très clairement ce péché dominant, l'idolâtrie, où on a rejeté Yahweh au profit d'idoles mortes qui ne peuvent rien pourtant. Et puis, Élie, ce qu'il dit dans ce passage-là, c'est « Seigneur, ils ont tué tes autels, pardon, tes autels, tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi, je suis demeuré seul, ils cherchent ma vie. » Il dit Seigneur, et remarquez dans la Darby, il y a un petit astérisque ici, une petite étoile, là, vous voyez ça? Ça, c'est pour indiquer, et Darby le mentionne dans la préface, c'est pour indiquer une référence ou une correspondance avec Yahweh dans l'Ancien Testament. Alors, c'est le mot Seigneur qui est là, même en grec, c'est kurios, mais c'est une référence très claire à Yahweh dans l'Ancien Testament. Donc, on aurait pu traduire Yahweh, ils ont tué tes prophètes, etc. La révolte d'Israël était grave à l'époque d'Élie et d'Élisée. Ils avaient vraiment tourné le dos à Yahweh, le Dieu si bon, le Dieu des alliances. Ils avaient tuer ses prophètes, ils avaient renversé les autels. Puis le verbe renverser, il est, à mon sens, il n'est pas assez fort. Parce que renverser, tu vois, si on pousse contre une table, elle se renverse par terre. Bon, c'est tout, elle est renversée. Mais le verbe ici est plus fort, c'est ruiner, c'est de raser totalement au sol quelque chose. Le résultat de ce verbe-là, quand il est utilisé, est toujours désastreux, catastrophique. D'ailleurs, étymologiquement, il est lié de près au mot catastrophe. Donc, on parle vraiment de détruire. C'est une prise de position terrible faite par Israël à cette époque-là. Et Élie se plaignait en fait de cette révolte-là, implorait le Dieu de jugement contre Israël, et puis aussi voyait des menaces contre sa propre vie. Et c'est alors que Dieu répond, et là on voit que la réponse de Dieu est personnifiée, hein? On dit, que lui dit la réponse divine? La réponse divine parle. En fait, c'est Dieu qui parle, mais là on personnifie sa réponse comme si elle-même avait quelque chose à dire. Et cette réponse dit, je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. À cette époque tellement idolâtre, c'est vrai que même l'Écriture elle-même, si elle n'avait pas mentionné cela, on aurait eu tendance à dire avec Élie, effectivement, il est le seul fidèle à cette époque, tout le peuple, quoi, a rejeté Dieu. Mais non, il y en avait qui n'avaient pas rejeté Dieu. Il y avait des hommes choisis par le Seigneur qui allaient continuer, rester fidèles, qui n'allaient pas tomber dans la dévotion, la soumission et la crainte envers Baal, une idole d'un Dieu qui n'en est pas un, qui n'existe pas. Le fameux Baal, le Dieu des orages cananéens. Ouais, il était le Dieu des orages, mais incapable de faire la moindre goutte d'eau. Pas capable de faire de pluie. Alors, c'était ridicule, mais en fait, le peuple était tombé dans cet aveuglement idolâtre, et puis malgré tout, Dieu avait mis de côté, si je peux dire, hein, je me suis réservé 7 000 hommes. Donc, pour l'apôtre Paul, ce qui se passe au temps d'Israël, au fait que Dieu n'a pas rejeté son peuple en entier, malgré l'idolâtrie, bien sûr, ils vont être jugés. Mais il y avait un reste fidèle, appelé résidu dans la version Darby. Je crois que ce serait peut-être préférable d'écrire un reste. Oui, il y a un reste, une élection de la grâce, comme on voit dans le verset 5. Le temps présent dont Paul parle, c'est le temps actuel que lui vivait. Autrement dit, la période de l'Église. Il était déjà dans cette période, l'apôtre Paul. Il pouvait écrire aux Romains, au chapitre 11, verset 5, dans le temps présent, le temps actuel, celui là où je suis en train de vous écrire cette lettre, il y a un résidu ou un reste de Juifs fidèles qui sont selon l'élection de la grâce. Paul va au-delà de lui-même et inclut tous les Juifs croyants qui faisaient partie de l'Église. Donc, rappelez-vous que le but de Paul ici n'est pas de dire que ce reste-là a remplacé Israël. C'est simplement de souligner que Dieu n'a pas définitivement rejeté tous les Juifs systématiquement parce qu'ils ont rejeté Yahweh ou leur Messie. C'est plutôt un argument de preuve de la grâce de Dieu envers le peuple juif. Mais le problème avec le peuple juif, et on l'a vu dans le chapitre 10, c'est qu'ils ont cherché à établir leur propre justice. Ils cherchaient leur propre justification, donc ils cherchaient le salut par les œuvres. C'est pour cela que Paul souligne au verset 6 que si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce ne devient plus une grâce. C'est ça, vous comprenez que c'est juste une manière hypothétique de dire que la grâce perd sa raison d'être. Si tu prétends pouvoir te justifier toi-même, tu n'as même pas besoin de la grâce, en fait. Essaie, puis vas-y, bonne chance, hein? Tant mieux pour toi si tu réussis, mais on sait que ce n'est pas possible. On sait très bien que ce n'est pas possible. Donc, dans le point de vue de Paul, c'est de dire, voilà, s'il y a aujourd'hui des croyants juifs qui prouvent que Dieu n'a pas rejeté définitivement son peuple, ce sont ceux qui, par grâce, sont sauvés et, bien entendu, font partie de l'Église à ce moment-là. Donc, voilà le premier argument de l'apôtre Paul dans ses versets 1 à 6. Dieu n'a pas rejeté Israël. La preuve, on trouve des croyants juifs sauvés encore aujourd'hui, même dans le temps de l'Église. Et d'ailleurs, juste souligner en passant que c'est vrai que pour un juif qui se convertit aujourd'hui, il n'entre pas dans un cadre d'alliance, il entre dans l'Église. Exactement comme nous. Donc, il devient un membre à part entière du corps de Christ. Et en tant que tel, il n'y a plus ni juif ni grec, dira Paul aux Galates. C'est chapitre 3, verset 28, je pense. Vous vérifierez. Mais c'est ce que Paul veut dire, en fait. C'est que je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais il perd comme son identité nationale juive en tant que peuple de l'Alliance, mais pas bien sûr son identité ethnique et le fait qu'il demeure un juif pour toujours, mais que dans l'Église, il n'a pas de statut particulier par rapport aux non-juifs. Et donc, dans l'Église, il n'y a plus ni juif ni grec, en ce sens où maintenant nous sommes tous bénéficiaires de la même grâce de Dieu qui sauve. Le but de Paul n'était pas de faire cette distinction-là dans les six premiers versets. J'espère que l'argument est très bien compris, est clair. C'est simplement de montrer que par le fait même qu'il y a des Juifs sauvés, ça prouve que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Le deuxième argument maintenant, ce sont les versets 7 à 10 qui nous parlent d'un jugement disciplinaire et temporaire. Permettez-moi de lire d'abord ces versets, versets 7 à 10. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, et les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et David dit, que leur table devienne pour eux un filet et un piège et une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et courbent continuellement leur dos. Wow! C'est sévère comme ton dans ce passage parce que ça nous parle d'un jugement disciplinaire de Dieu contre le peuple d'Israël. Donc le peuple ethnique avec lequel Dieu a fait ses alliances qui sont dans l'Ancien Testament. Le texte débute avec cette question. Quoi donc? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit conclure jusqu'à maintenant sur ce que nous avons parlé? Eh bien, voici la conclusion. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Et on l'a vu dans le chapitre 10, c'est quoi qu'il cherchait? À établir leur propre justice. C'était tellement fort devant leurs yeux qu'ils n'ont pas vu le Messie. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont même vu plutôt un imposteur, quoi, quelqu'un qui va complètement à l'encontre de leur propre justice. Et voilà pourquoi ils ne l'ont pas obtenu. Mais l'élection, et là, vous voyez que c'est encore une personnification. D'ailleurs, l'apôtre Paul fait cela très souvent, très, très, très souvent, dans ses épîtres, il utilise la forme littéraire de la personnification. Ça veut dire de traiter un concept abstrait comme si c'était une personne. Comme quand il dit, entre parenthèses, dans les Romains au chapitre 6, on avait vu que le péché ne règne pas dans vos cœurs. Le péché est personnifié comme un roi tyrannique qui exerce son pouvoir dans le cœur du croyant. Donc, c'est comme si Paul disait, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en québécois, on dirait, débarque-le de sur le trône, ce roi-là. Donc, ôte le péché de ton cœur. Eh bien, on voit ça souvent, ce genre de personnification-là, dans les lettres de Paul. Et ici, il parle de l'élection comme si le fait même de choisir, d'élire certains pour le salut était personnifié. Donc, l'élection, en réalité, c'est une personnification des élus. Dans le plan de Dieu, il a un choix souverain de ceux qui vont hériter le salut. Et ça, c'est un aspect de la vérité qui est incontestable, mais qui ne n'annule pas le principe de la repentance de l'homme et de la nécessité plutôt qu'il croit pour être sauvé. Ah, les deux sont difficilement réconciliables. Joël nous en a parlé aussi. Et tout comme lui, moi, j'admets une chose, il y a dans la Bible des tensions parfois entre certaines doctrines qu'on a de la peine dans notre raisonnement humain à concilier ensemble et qui pourtant sont vraies sous chacun de leurs aspects. Dieu nous permet parfois de voir de son côté l'histoire de la rédemption et du côté de l'homme, eh bien aussi on le voit, c'est la repentance et la foi. Et du côté de Dieu, eh bien on parle de l'élection d'une façon toute particulière. Et puis, le Seigneur nous dit ici, à travers Paul, que ceux qui cherchent à établir leur propre justice n'atteindront pas, n'obtiendront pas. Et littéralement, le verbe obtenir veut dire avoir accès à quelque chose. Ils n'auront pas accès, ceux qui cherchent la justification par leur propre force. Mais les autres, pardon, l'élection, l'obtiennent parce qu'ils sont passés par la foi, par la repentance et bien sûr, parce que Dieu s'est révélé à eux. Et les autres, qu'est-ce qui arrive? Ils ont été endurcis. J'ai bien aimé comment Joël a souligné, je parle Joël Proin, hein, je pense que vous me suivez bien quand je dis ça, comment il a souligné l'endurcissement d'abord de Pharaon lui-même, qui s'endurcit, puis par la suite que l'Éternel, dans son jugement souverain, endurcit le cœur de Pharaon. On voit comment Dieu endurci Israël. Si vous suivez la logique de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12, par les chefs religieux juifs, le peuple d'Israël rejette son Messie, attribue à Béelzébul, une représentation du diable, la puissance derrière les miracles de Jésus. On appelle cela communément le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais quand le peuple juif commet ce péché, eh bien, il tombe sous un jugement d'aveuglement spirituel. Et Jésus se met à parler en parabole des vérités du royaume pour que Israël ne comprenne pas, parce qu'ils viennent de tomber sous un jugement d'endurcissement et d'aveuglement spirituel. C'est exactement ce que Paul fait ici. Il appuie, j'en suis convaincu, sa compréhension des choses par rapport à Israël sur déjà ce que on trouve durant le ministère public de Christ. Ça ne fait aucun doute, de tous les cas, dans tous les cas, il y a une parfaite cohérence entre ce que les évangiles enseignent par rapport à l'endurcissement d'Israël et ce que Paul enseigne ici dans les Romains. Donc, oui, ils ont été endurcis, c'est-à-dire rendus incapables de comprendre les choses d'un point de vue spirituel. Et cela repose aussi sur ce que l'Écriture annonçait d'avance selon ce qui est écrit, et on le voit ça au verset 8. On parle de deux textes ici, Ésaïe 29, verset 10, et Deutéronome 29, verset 4, qui nous dit ceci: Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement. Dans la version Darby, on pourrait traduire d'insensibilité. Qu'est-ce qu'un esprit d'étourdissement ou un esprit d'insensibilité? Eh bien, c'est le fait de tomber dans une sorte d'assoupissement spirituel qui se traduit par une incapacité de penser et d'agir selon Dieu. C'est vraiment un jugement. C'est un jugement d'aveuglement de la part de Dieu. Et ensuite, on voit qu'il y a des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Ça, c'est tellement répété souvent dans l'Écriture en lien avec un jugement de Dieu pour que les gens ne comprennent pas. Et franchement, c'est pas. Vous comprenez que Dieu est un Dieu de grâce et de bonté, de miséricorde incroyable. Il ne fait pas cela de façon arbitraire, simplement pour se plaire à lui-même. Tu vois, voilà, paf, je l'endurcis, je l'aveugle, il ne verra rien, il ne comprendra rien. C'est toujours conséquemment un rejet. C'est dû au propre rejet du cœur de l'homme. C'est à cause de son propre endurcissement que les choses arrive ainsi. Dieu est si bon, Dieu est si grand, mais voilà, Dieu est aussi sévère. Et voilà pourquoi d'ailleurs la parole de Dieu nous dit de considérer non seulement la bonté, mais aussi la sévérité de Dieu, n'est-ce pas? Alors c'est important de porter attention aux deux. Et puis voici ici le jugement de Dieu, c'est de leur donner, d'en fait, de leur enlever la capacité de voir et de comprendre spirituellement. Au point que David va ajouter ceci au verset 9, et c'est une citation du psaume 69, les versets 22 et 23. Et là, permettez-moi une lecture peut-être plus littérale, je vais le dire comme ça. En fait, c'est pour accentuer quelque chose. Vous pouvez me suivre dans la Darby ou dans n'importe quelle version. Verset 9. Que leur table devienne un piège et un piège. Et un piège. Et oui, j'ai répété trois fois le mot piège. Je vais le relire encore. C'est simple, mais c'est vraiment important ce passage. C'est hallucinant à quel point Paul insiste que leur table devienne un piège et un piège et un piège et une rémunération pour eux. Bien entendu, il n'y a aucune version française qui va traduire ces trois mots grecs différents, c'est vrai. Par le même mot français, piège, piège, piège. Mais la réalité, c'est que les trois mots décrivent un piège, mais mettent l'accent ailleurs chaque fois. Par exemple, le premier mot piège, traduit par filet dans la Darby, il met l'accent sur le fait d'être soudainement pris au piège. Tac! Le piège se referme sur une personne. On parle de ce qui met soudainement une personne en danger ou en difficulté. Le deuxième mot, qui est bien traduit par piège cette fois-là, il met l'accent dans le grec sur la proie qui est prise dans le piège. Donc, il met l'accent sur le fait que cette proie-là est prise et ne peut pas s'échapper. Et le troisième terme, qui veut dire un piège aussi, qui est traduit par occasion de chute ici, eh bien, il met l'accent sur, de façon graphique, là. Imaginez-vous un piège qui a un système qui se referme rapidement, mais qui est déclenché par un bâton. Et quand la proie entre vers le piège, touche le bâton, slap, ça se referme immédiatement sur la bête. Eh bien, c'est exactement ce sur quoi met l'accent l'expression occasion de chute. C'est peut-être moins évident avec des mots comme ça. Personnellement, j'aurais préféré un piège et un piège et un piège. Et puis dans le bas de page, ben, tu m'expliques c'est quoi la distinction entre les trois termes. Et puis, non seulement c'est un piège, 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 mais aussi une rétribution dans le sens d'un jugement. Vraiment, c'est dans le sens d'un jugement. Habituellement, quand on traduit le mot qui dit rémunération, en fait, quand on le traduit par rétribution, c'est un jugement, récompense, c'est ce que ça dit, c'est quelque chose de bien. Mais ici, c'est vraiment un jugement. Il y a quelque chose de sévère. Il y a un piège qui se referme, on est pris dedans, et c'est l'aveuglement spirituel dans le contexte. Et qu'est-ce qui devient ce piège? La table d'Israël. Voilà le pourquoi c'est hyper important de comprendre ce que signifie ce mot-là, le mot table. Quand il est utilisé au sens figuré, très souvent, il parle des privilèges dont une personne peut jouir. Et pour Israël, ces privilèges-là nous sont mentionnés clairement dans Romains 9, les versets 4 et 5. Je le cite rapidement, qui sont Israélites, donc le peuple juif, à qui appartiennent. Voilà la table, l'adoption. Ça, ce sont les mets qu'il y a sur la table. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et même le Christ, le Messie. Et ils avaient tout ça sur leur table. Mais ils ont pensé que simplement que d'avoir ça sur la table, c'était suffisant. Et puis voilà, parce que nous, on a ça, ces privilèges-là dans notre histoire, on est sauvés. Voilà. Mais en fait, c'est de l'orgueil. Et cet orgueil-là les a menés à l'aveuglement spirituel, dans le rejet du Messie. Et voilà, ils tombent par la suite sous le jugement de Dieu, un jugement qui s'exprime dans le verset 10. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir. Donc, à nouveau, là, on voit, c'est l'absence de discernement spirituel. Bien sûr, on ne parle pas des yeux physiques, mais les yeux du cœur, en fait, de l'intelligence, obscurcis. Donc, on est maintenant incapable de voir, de saisir, de comprendre. Et même dans le jugement demandé par David dans cette citation du psaume, fait courber, c'est écrit courbe, littéralement fait courber leur dos. C'est-à-dire soumêlait à un jugement, à des afflictions. Et c'est une manière, en fait, symbolique de décrire une personne qui va être amenée à être écrasée. Voilà pourquoi son dos courbe sous le jugement de Dieu. Mais l'adverbe continuellement ne veut pas dire éternellement, indéfiniment, pour toujours. C'est une manière constante, mais dans une période déterminée. Donc, le jugement est temporaire. Il ne sera pas éternel. Voilà pourquoi, déjà au départ, on peut exclure l'idée qu'il n'y aura pas de salut pour l'Israël ethnique dans le futur. Je m'arrête ici. On est déjà rendu à 55-56. C'est le moment, normalement, là, de prendre quelques questions.
Merci Gilles pour cet exposé jusqu'au verset 10 de ce chapitre 11. Et puis, on va profiter de prendre quelques questions. Donc, moi, je vous rappelle, vous avez la possibilité dans l'onglet Q&R de poser des questions. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs questions sur ce fameux résidu. Du verset 5 pour l'identifier. Je pense que c'est utile que tu reprécises. Certains posent les questions. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les 144 000 de l'Apocalypse? Qu'est-ce que c'est que ce résidu? Est-ce que tu serais d'accord de repréciser cela?
Oui, dans les Écritures, d'abord, le concept de résidu ou reste est simplement de démontrer qu'il y a toujours un groupe qui n'est pas la majorité, mais il y a toujours un groupe qu'on peut qualifier de fidèle, de croyant, et qui donc accepte les plans de Dieu et les voies de Dieu, et donc qui font partie de son peuple. Donc, quand on parle du peuple d'Israël comme étant le peuple de Dieu, cela ne veut pas dire que tous les Juifs, sans exception, sont le peuple vraiment de Dieu. Parce que même, on le voit dans les arguments de Paul, le fait d'être un Juif, d'un point de vue ethnique, n'est pas suffisant pour faire de soi un enfant de Dieu. Donc, dans le peuple d'Israël, à l'époque d'Élie, comme la majorité avait rejeté Dieu et était tombée dans le culte idolâtre, il y avait un reste, c'est-à-dire un groupe plus restreint de Juifs qui étaient restés fidèles à Dieu, et voilà comment l'Écriture nous en parle. Donc, dans chaque époque, on peut dire qu'il y a un reste juif, et c'est vrai aussi dans l'Église. Actuellement, il y a un... C'est pas la majorité des Juifs qui sont sauvés, mais ceux qui le sont font partie de l'Église. Et donc, pendant la période du royaume messianique, ou précédent plutôt, là, dans la tribulation, il y aura aussi encore un reste des Juifs qui ne sera pas la majorité, mais quand même un nombre assez imposant. Le mot reste ne donne pas un chiffre ni une quantité exacte. Elle dit simplement que ce n'est pas la majorité.
Et puis alors l'illustration des 7 000 qui n'ont pas courbé le genou devant Baal au verset 4, elle est une illustration de ce reste et non un groupe qui devrait être de cette quantité-là et qui serait un futur résidu. Est-ce que tu peux confirmer cela? Parce qu'il y a aussi une question à ce sujet.
Oui, en fait, c'est très clair que ce sont des 7 000 hommes. Et le mot homme dit mâle, hein? C'est intéressant dans le grec que c'est le mot mâle qui est là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait personne d'autre en dehors des 7 000? Je ne crois pas. Mais quoi qu'il en soit, l'accent, c'est simplement de dire ici, il y en avait au temps d'Élie qui n'avait pas fléchi le genou et qui faisait partie des sauvés. C'était ça le but, là. Vraiment, les 7 000 qui sont là sont dans la période d'Élie. Ce n'est pas un chiffre prophétique qui a pour but de donner une limitation ou un nombre précis pour aujourd'hui, par exemple.
Ben merci Gilles pour ces deux questions. On va profiter de faire une petite pause. À bientôt.
Merci, à tout de suite.